L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveaux compagnons.
De la musique, de documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Attention.
Hommage spécial dédicace.
Voici les modules dans l'ordre de l'émission. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Les éditeurs, les... C'est maintenant l'introduction.
On commence par la saga de Rodolphe Orville, Jean-Pi le bébé singe. Nous en sommes à l'épisode 18, une aventure qui continue, celle d'une histoire enregistrée entièrement sur bande cassette.
Ensuite, une musique de Christophe Capello dans des styles dub électro, reggae dance, qui s'intitule Redeem the Girl on Dub. Pour continuer, l'épisode 10 de Politiquesque par Alban, qui vient nous questionner sur la violence et la répression.
L'heure coule. Le temps passe trop vite. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Des fois, on n'a pas les possibilités d'agir en temps voulu, en heure.
C'est à l'écoute de cette musique, l'heure coule, que vous pourrez peut-être vous poser ces questions. Prenez au hasard des contenus sonores de l'association, mettez-les dans un mixeur, mixez, voyez ce qu'il en ressort. Sûrement quelque chose qui aura l'odeur de ce CV sonore.
Cédric Gueld a écrit le test de Martin Luther King.
Ensuite, le dictionnaire, le premier épisode de cette chronique réalisée par Nicolas Désir en 2009, où il s'agit, c'est un jeu, de retrouver la bonne définition d'un mot. Ensuite, une petite création sonore de Ludovic Auger.
Pour finir, la deuxième chronique d'Alban, Néophile au Moé, l'épisode 46 qui continue de nous stimuler sur les circuits à l'œuvre dans les hémisphères de nos cerveaux. De quoi nous faire réfléchir.
Une fois de plus, je vous souhaite une bonne écoute sur les auditeurs.
Et on se retrouve le mois prochain. Et pour l'heure, il est l'heure d'écouter Jean-Pi et le bébé singe.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 18, Jean-Pi finira-t-il en prison ? Résumé de l'épisode précédent, les autorités, maire en tête, débarquent chez Jean-Pi avec un ordre de perquisition. Le monstre noir est chez Jean-Pi, c'est sûr. Mais où se cache-t-il ?
Comment se fait-il que le menteur n'ait pas aperçu Babylas ?
Eh bien, j'avais mis Capucine au grenier, répond-il, parce qu'elle m'énervait par ses aboiements. Mais elle doit être calmée maintenant. Je vais la redescendre. Il saute sur la chaise, passe dans le grenier et regarde tout autour de lui.
Capucine l'accueille par de petits jappements. Mais soudain, que fait-elle ? Capucine se détourne de lui. dans sa gueule. Elle saisit la corde qui permet d'ouvrir la lucarne. Elle tire dessus. La lucarne se soulève légèrement. Puis retombe. Alors, le chien revient vers son maître en frétillant de la queue comme s'il s'attendait à les félicitations. Oh, oh ma bonne Capucine, murmure Jean-Pi en lui tapotant la tête. Comme tu es intelligente. Jean-Pi a compris. Il avait mis les deux bêtes au grenier pour qu'un visiteur ne risque pas d'apercevoir Babylas ou d'entendre le bruit qu'il pourrait faire. Et Capucine a deviné que son ami était en danger. Plusieurs fois, elle avait vu Jean-Pi ouvrir la lucarne pour accueillir des oiseaux. Elle l'a imité. Quand elle a entendu du bruit dans la chambre, elle a tiré sur la corde. Et Babylas a pu se hisser sur le toit. Jean-Pi redescend son chien, le met dans les bras de Minouche. Puis, il se campe devant le maire, les poings sur les hanches. « Eh bien » demande-t-il d'un air arrogant. « Vous êtes satisfait maintenant ?»« Pas du tout, » répond le maire. « Suis-nous !» Ils redescendent au rez-de-chaussée. « Cette affaire n'est pas claire !» reprend le maire. « Nous sommes sûrs que tu as caché ce monstre. Si nous te laissons en liberté, tu continueras tes manigances. » Alors, en attendant que la question soit réglée, tu iras en prison. Oust !
Jean-Pi en prison ? S'écrie une voix claire.
Impossible, messieurs !
Tout le monde se retourne.
Barbara vient d'apparaître sur le seuil. Très bien vêtue, comme à son habitude, et l'air volontaire. J'ai absolument besoin de ce garçon, déclare-t-elle. Il entraîne mon poney prince. Je l'ai attendu toute la matinée. Et je suis venu voir ce qu'il faisait.
Il n'est pas question de le mettre en prison.
Le maire est un peu embarrassé. En effet, Barbara a beaucoup d'influence au pays des enfants. Elle est très audacieuse, parle fort.
Et parvient le plus souvent à imposer ses volontés.
D'ailleurs, qu'a fait ce jeune garçon, reprend-elle. Serait-ce à cause de cette ridicule histoire de monstre noir que vous l'ennuyez?
Pas ridicule du tout, proteste le maire.
Mais si, mon cher, vous vous attendez pour rien. Jean-Pi a protégé. Est-ce une raison pour le mettre en prison? S'écrie-t-elle avec indignation. Il n'y a jamais eu personne dans votre prison. Je pense qu'il n'y a même pas de gardien.
Non, c'est vrai. Il n'y en a pas, reconnaît le maire.
Oh, vous voyez, une prison au pays des enfants, c'est complètement ridicule.
Exactement.
Les enfants que l'on accepte ici sont tous honnêtes et sages.
Oui, mais
Jean-Pi est arrivé sans autorisation, rappelle le maire. On ne le connaît pas encore. Moi, je le connais et je l'apprécie. Ça suffit.
Jean-Pi, réconforté, échange un sourire avec Minouche. Pourtant, le maire ne veut pas céder complètement. On discute encore un peu et puis on finit par trouver une solution moins pénible pour le suspect.
Jean-Pi restera chez lui, mais il n'aura pas le droit de sortir. Sa porte sera surveillée jour et nuit jusqu'à ce que les autorités aient terminé leur enquête. Certes, il pourra recevoir des visites, mais sa porte sera gardée. Cette mise au point terminée, chacun quitte la pièce. Ouf ! Murmure Jean-Pi, une fois que tout le monde est parti. J'ai eu peur. Sans moi, que serait devenu Babylas? Babylas? Il a filé! Lui fait remarquer Minouche. Sans répondre, Jean-Pi remonte dans sa chambre.
Il passe dans le grenier, soulève la lucarne et jette un coup d'œil sur le toit. Babylas est là, blotti derrière la cheminée. Il suce son pouce. Morboy paraît tout à fait content de lui. Jean-Pi lui fait signe de redescendre dans le grenier.
Il fait monter Capucine pour lui tenir compagnie.
Puis, laissant le vasistas ouvert, il redescend au rez-de-chaussée.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Champignon en cocon dessus.
Oh,
ça bouge, c'est vivant et ça parle.
Bienvenue à Microsillon, vous êtes des nouvelles adhérentes?
On aurait peut-être dû regarder l'affiche sur la porte.
Yeah, one style.
Tu vas te faire régler.
Ou tu vas un taxi.
Si vous avez apprécié cette musique, retrouvez-la sur YouTube, Christophe Capello. Bonne écoute, merci.
Mi c'est que la politique?
C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est la politique?
Qu'est-ce que? Politiquesque.
Épisode Zozo, seul maître à violence.
Laissez les
pinces
recharger, vite à portail,
dans la ruelle, derrière la poubelle, vite.
Oh,
oh
mais c'est
Jules. Nico, Maëlys, Émile. Oh, ça fait du bien de nous voir. Ouh, tu plein de fraîche pour le soir.
Tiens, cette plaie ressemble à une morsure.
Jules. Tiens,
voilà Natsuki.
Tu me reconnais? Je suis populaire. Pourtant, tu n'es pas un gilet jaune.
Mais j'ai écouté de nombreux témoignages de la répression. Attends un peu...
Arrête d'essayer de redresser ma tête, le gars. Elle est cassée pour une raison.
Nyororo. Bon... Tu es donc le natsukisme. La peur de la répression.
Non, pas Saran, sous les fourches codines.
Le monde de gloire t'a fauché?
Ouais, surtout mon père. Depuis, c'est plus si facile de faire des cupcakes.
C'est horrible.
Toute cette force qui s'acharne en permanence sur nous, que de violence face à nous, du monde d'amour.
Le contrôle est tout pour eux. C'est eux qui tuent, eux qui excluent, ils veulent pas de nous.
Le système exclurait même jusqu'à nous, incels et féministes.
Bien sûr, surtout les féministes qui renversent l'ordre patriarcal. Alors la patriarchie retire aux femmes qui pensent les hommes qu'elle exclut. Comme ça, elles ont moins d'amour. Elles ne peuvent pas non plus redessiner la société. Surtout alors que les hommes se radicalisent et se dressent contre elles, qui n'ont rien fait de mal. Je sens ton cœur de pierre, Nicolas. La compétition dans l'amour ne permet pas de repenser la société autrement.
Que dans l'amour de la compétition.
Que peut-on faire contre ça?
Énoncer la violence où qu'elle soit. L'antisociété systémique est basée sur les cultures de l'abus et du viol. Là où elles ne reculent pas, elles avancent, contagieuses et pernicieuses.
Pleine de colère, disent que certaines personnes se plaignent trop des abus. Mais en fait, ces premiers sont souvent des abuseurs ou des gens acceptant bien trop la culture de l'abus.
Heureusement qu'on vit dans une résurgence massive de l'empathie où des masses s'éveillent à la souffrance qu'elles causent.
Waouh, j'ai sommeil.
On était en train de faire un bout de chemin jusqu'à chez moi.
Je vais alors mettre ton soi-disant féminisme à l'épreuve du feu du désir. Héberge-moi.
Oh oui, moi aussi.
Ok. J'ai un canapé. On n'aura qu'à dormir ensemble, Émile.
Ok.
Des réactions.
le maté est la boisson ancestrale du monde. Le peuple est couleur de peau, couleur du temps. Le temps est la liberté. Le temps est la liberté.
Le noir de cobalt et le bleu de cobalt. L'électrique. Le bleu électrique, le vert électrique. Canari. Le jaune canari et le vert canari. Camion. Le camion clair, camion foncé. Camion foncé, le rouge. Comme le rouge incendie, le rouge primaire, le rouge vermillon. Et le rouge opéra, le rouge cerise, le rouge indien, le rouge bordeaux, le rouge carmin, et le fuchsia, le magenta, le rose. Rose granit, le saumon, ananas, orange, jaune-orange, dans les jaunes, le jaune tournesol, le jaune d'or, le jaune provençal, le jaune citron, le jaune moyen, le jaune vif, le jaune primaire, le jaune canari, le jaune lumière, le jaune écru. Dans les verts, le vert de mai, le vert javel, le vert prairie, le vert tige, le vert émeraude, le vert musulman, le vert japonais, le vert anglais, le vert pompadour, le vert empire, le vert menthe, le vert reine, le vert jade, le vert malachite, le vert opale, le père, le vert océan, le vert camélia, le vert forêt, le vert bouteille, le vert bleu.
Bienvenue à l'émission.
Émission? Où c'est une mission?
Oh, encore cet idiot.
Agent micro, au service de l'agence.
Oh, Svet, avant que tu ne crames le plafond à nouveau, tu peux dire aux auditeurs que le stream est de retour?
Ah oui, le stream CEO est de retour sur YouTube les mercredis à partir de 15h. C'est le YouTube Association Micro-Sillon. Au direct.
Bienvenue dans le monde des petites histoires de Clarisse. 2 minutes pour vous accompagner à vous éveiller. Il va vers la cité, celle des pommes, à Valou. Défendre son droit de cité. La famille des vers est en danger. Depuis Adam et Ève, les pommes doivent être vierges et briller. Pour des humanidés d'hygiénisme pressé. Le ver a cité, affaire rondement menée. Les pommes en sont convaincues. Brillantes et luisantes, elles ne seront plus. Avec quelques humains éveillés, qui eux pensent qu'un petit ver, certes mangeur de chair, a tout autant sa place et peut finir en compoté. Loin d'être paumé, il recolonise ses belles tentatrices au tendre plaisir gustatif. C'est pour cela que, si vous trouvez un petit ver, pensez à celui qui a défendu, devant toute la cité, son droit d'exister.
Les crédits musiques sont attribués à Sous le Pont.
Micro-sillon.
Il s'appelait Martin Luther King. Écoutez ce mot que j'ai écrit le 28 août 2020 sur Martin Luther King. C'est un homme courageux, comme Abraham Lincoln. C'est écrit dans le journal. Pour comprendre Martin Luther King, il faut connaître sa vie. Qui pense aux populations en danger, qui pense aux enfants oubliés, ceux qui se nourrissent des déchets. Lui pense aux réfugiés déchus. Il pense à la terre promise des États-Unis, puisque la haine ne cessera jamais avec la haine, mais que la haine cessera avec l'amour. Je vous annonce, la pierre qu'ont jeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle des États-Unis. Cela est devenu un prodige à nos yeux. Il s'appelait Martin Luther King. Il luttait contre les exclusions. Il luttait contre la pire des maladies. La solitude. Parce que c'est toujours les mêmes qui subissent. Il luttait contre le fascisme. Il s'en mettait plein les poches. Il souhaitait un changement. Pour comprendre Martin Luther King, il faut connaître sa vie. Il s'est fait porte-parole des populations en danger. Pour l'emploi et la liberté, entre pouvoir et peur de mourir, Martin Luther King est debout. Lui qui n'avait que des paroles pour défendre son peuple. Face à toutes les ségrégations raciales, il pleurait avec son cœur. Les hommes ne savent pas dire merci. Lui qui n'avait que des paroles pour la foule. Lui le pasteur de la prière silencieuse. Face aux chiens de la police. Face au racisme vicieux, il fit face. La pierre que jetaient les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle des États-Unis. Cela est devenu un prodige à nos yeux. Je veux dire merci Martin Luther King. Malgré les croix, malgré les peines, l'exclusion, je t'aime Martin Luther King. Je voulais simplement te dire je t'aime. Car tu dis j'ai fait un rêve qu'un jour, mes quatre enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de la peau, mais pour leur caractère. Tu as donné ta générosité. Tu as tout donné face à la haine. Face à la haine, tu as donné ta vie. Je vais te dire que tu resteras comme une lumière qui me tient chaud en hiver. Je t'aime, Martin Luther King. Vous avez de la suite dans les idées. Je voulais prendre le temps de t'écouter pour avancer sur la route des frères. Comme un mélange de culture pour être riche de connaissances et d'égalité. Je vous annonce que la pierre qu'ont jeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle des États-Unis. Cela est devenu un prodige à nos yeux. On aime les rêves de Martin Luther King. Comme on aime les manifestations de Martin Luther King. Comme on aime apprendre à vivre ensemble comme des frères. Pour briller le soleil de l'égalité et de la paix. Merci Martin Luther King pour cette force qui dénonce. Et pour la foi inébranlable, ton espoir invincible. C'est pourquoi tu fus assassiné. Merci beaucoup car ton rêve est une réflexion. Pour vivre tous ensemble dans l'égalité. J'écris ce texte le 28 août 2020, en hommage au discours du 28 août 1963, pour dire merci Martin Luther King pour ce cadeau.
Quel est votre héros préféré?
C'est Micro-Sillon!
L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.
Le micro-sillon.
The pléonasme à la force.
Un sondette.
En ta classe. Cac en fat. Épitrocasme.
Bienvenue, mesdames et messieurs, au Nictionnaire. Trois mots, trois propositions, une seule bonne réponse.
Nictionnaire, l'ami des mots, l'ami des lettres, mais ça n'engage que lui. Premier mot aujourd'hui, anacolute. Première définition, absence de lien dans la construction d'une phrase. Deuxième définition, instrument de musique en plastique avec une seule corde qui se jouait avec une luth acharnée. Troisième définition, ancien peuple du temple Hatif, disparu pendant l'ère d'Hammer. Je fais un malheur. il fallait trouver... Absence de lien dans la construction d'une phrase. Exemple. Rentrer chez lui, sa femme était malade. Chérie, quel est cet homme à côté de toi ? Ah, c'est un acolyte.
Waouh ! Dictionnaire. Trois mots, trois propositions, une seule bonne réponse.
Deuxième mot du jour, palanquée. Première définition de palanquée. Danse orientale disparue au XIIe siècle, pratiquée par les sumos du Moyen-Orient.
Mais ça n'existe pas.
Deuxième définition. Petit chausson en marbre que l'on ne met plus depuis le retour des pieds noirs. Troisième définition. Se dit de quelque chose qui est très nombreux. Une palanquée de quelque chose. Il fallait trouver... Se dit de quelque chose qui est nombreux, une palanquée de billes. Par exemple, des jeux de mots, j'en connais toute une palanquée.
Dictionnaire. Trois mots, trois propositions, une seule bonne réponse.
Troisième mot du jour, lanturlu. Première définition de lanturlu. Jeu de cartes routières du Moyen-Âge qui consiste à retrouver son chemin. Première version du GPS. Deuxième définition, jour fictif du calendrier cathodique. Troisième définition, réponse évasive accompagnée de mépris. Il fallait trouver... Réponse évasive accompagnée de mépris. Exemple. Dis-moi Bertrand, ce livre, l'as-tu relu ?
Oh, tais-toi !
C'était les trois mots du jour. À vous les studios !
Dictionnaire. Trois mots, trois propositions, une seule bonne réponse.
Trouvez votre illumination avec votre hâte habituelle, Néophile au Moé. Épisode Zomozo, les Shadoks et les 4 grands fairies. À l'épisode précédent, on a parlé des 3 derniers circuits neuraux et appris que sauter des étapes et paradigmes est très déconseillé. Peu après la découverte des 8 circuits, j'ai eu une idée. Les 2 hémisphères sont complémentaires. L'hémisphère gauche est l'automatisme initial et l'hémisphère droit reprend peu à peu contrôle de cet automatisme. Par exemple, le premier circuit est celui de la biosurvie. Il régule notre respiration, notre digestion, notre rythme cardiaque, etc. Le yoga, discipline utilisant le cinquième circuit, nous réapprend à respirer, entre autres biorhythmes. Quand le premier et cinquième circuits sont reliés, on obtient la connaissance et la maîtrise intuitive de nos biorhythmes. On n'a plus à s'en inquiéter. Quand une telle personne a par exemple un arrêt cardiaque, elle peut simplement indiquer le rythme qu'elle veut à son corps et ce dernier repartira et ne s'arrêtera pas. Ça marche plus ou moins avec les 3 autres paires. Le deuxième circuit est celui du territorialisme et de la prédation. C'est aussi celui de l'anticipation du futur, et surtout de la pensée de l'adversaire. Le sixième circuit permet de voir les esprits et débloque des capacités comme la précognition et la télépathie. Donc on n'a plus à s'inquiéter à anticiper les entre guillemets mouvements d'un entre guillemets adversaire, on les connaît déjà par la précognition et la télépathie. On a la connaissance et la maîtrise intuitive du territoire et des émotions, car on sait s'y préparer. Le troisième circuit est celui de l'habilité manuelle et de l'art. Le septième circuit nous rend conscience de et capable de modifier notre propre code génétique, ce qui nous permet 1. D'être notre propre œuvre, et de 2. Créer la vie en tant qu'œuvre d'art, et de 3. Se faire pousser autant de mains que nous le voulons pour ne plus s'inquiéter de notre inhabilité manuelle. On a connaissance et la maîtrise intuitive de la créativité. Le quatrième circuit est le circuit de l'amour et du sexe, qui est le déclencheur des liaisons dans un réseau de lumière. Horizontalité des relations sur le plan qui est le lieu, le paradigme et le valeur. Le huitième circuit nous rend conscience du lien de lumière entre chaque être et Dieu, la verticalité des relations. Et par calcul d'hypoténuse, on obtient la capacité de savoir à quel point 2 modes sont compatibles. On n'a plus à s'inquiéter de conflits et de l'inaptitude à aimer. On a la connaissance et maîtrise intuitive des relations entre les modes.
Je pourrais même ajouter qu'il s'agit des quatre grands ferries, des quatre grands cadeaux que l'on doit équilibrer en soi. Le lien entre le premier et cinquième circuit, la connaissance et la maîtrise intuitive de nos biorhythmes, et la pierre de Fahl. On peut dire que c'est ce qui sépare un organisme qui n'est que peu de choses de plus qu'une pierre, qui s'arrête de vivre pour un oui ou pour un non, et un organisme qui vit réellement et est conscient de sa propre vie et maîtrise ses processus biologiques. Le lien entre le deuxième et sixième circuit, la connaissance et la maîtrise intuitive du territoire et des émotions, est le chaudron de Dagda. Dagda était un roi, d'où émane l'idée de royaume et donc de territoire, et il avait beaucoup d'émotions car beaucoup de femmes étaient attirées par lui, et inversement. Le lien entre le troisième et le septième circuit, la connaissance et la maîtrise intuitive de la créativité, est la lance de Lug. Cette lance qui pénètre tout, y compris les barrières entre les paradigmes. Pour qu'elle pénètre tout, il faut que sa structure s'adapte. Et c'est justement notre structure qui s'adapte quand nous modifions notre propre code génétique. Le lien entre le quatrième et le huitième circuit, la connaissance et la maîtrise intuitive des relations entre les modes, est l'épée de Nuada. Ici, ça devient compliqué, mais la connaissance des relations intermodales entre mode et dieu est la base du témoignage du mode, et donc une certaine idée de justice cosmique. Après tout, on intervient dans la relation entre deux modes, on devient un médiateur, et pour trancher la poire en deux moitiés, on a besoin du fil qui coupe tout et rien à la fois, le fil qui forme la trame même de la substance. C'est confronter cosmos et chaos à nouveau, le huitième circuit nous donnant la conscience cosmique, opérer le rituel dont l'épée de Nuada est le phallus, le quatrième circuit étant le socio-sexuel, la barguette du sorcier comme celle du sorcier et du chef d'orchestre, l'atamé originel des fées. Donc, notre cerveau est divisé en deux hémisphères qui, en se réunissant, forment quatre cases. Si vous me demandiez le nom d'un visionnaire, je dirais Claude Pieplu. Les Shadocks ont des cerveaux faisant quatre cases. L'humain est plus proche du Shadock qu'il ne le pense, même s'il sait que le Shadock est une caricature de l'humain. Mais ces quatre cases sont le gabusomeux de l'humanité. Pourquoi ne pas faire plus simple quand on peut faire compliqué? Cette phrase n'est pas seulement une parodie de la bureaucratie, c'est aussi une invitation à délaisser la pensée simple, qui veut expliquer tout par un seul modèle, par rapport à la pensée complexe, la pensée multimodèle, la transition entre la théorie atomique lambda et la théorie de la matière comme atome, solide et onde à la fois. Voyez votre paradigme avec des lunettes à double pente et rééquilibrez vos hémisphères. Tels sont les yeux de la vérité qui sont le regard de Dieu. On continuera de vous parler de ces circuits le mois prochain, après l'épisode 23 de Vlad le Barbare.
Oh oh, prends ça. Nouvel épisode de Vlad le Barbare. Vlad le Barbare.
Épisode 23, sous-boss de Perseidus. À l'épisode précédent, l'équipe a fini le premier niveau d'un donjon et commence à en arpenter le deuxième qui sera bien plus court, en commençant par tabasser un zombie beaucoup plus imposant que le précédent que Vlad a décapité.
Bénédiction ! Vite ! Rayon de vie ! Flèche crépusculaire !
Houston ? On a un problème !
Quoi ?
Il lui reste 38 points de vie ! C'est un gros balourd ! Anna, on va le désengager ! Rendez-vous Shell 2 !
Flûte ! Vlad a besoin de soins.
Courons.
Je te prends, Andir. Comme ça, je te mets sur Vlad pour le soigner.
Bien pensé. Soins légers.
Qu'est-ce qu'on fait?
Déjà, soins. Vigueur mineure. Puis ensuite, Anna, tu te rappelles le coup de la brique? Regarde par là où le gobe-gourse va passer.
Les débris. Je vais faire 15 rondes de ce zombie avec un mur de briques. Je vais bien faire 6 des 6. Nous donner la possibilité de les tuer. Mais c'est pas moi qui les flanque. Je vais soigner Blas le prochain coup qu'il recevra.
Projectile magique.
Kevin Dust impressionne le nain alors que le zombie perd son bras inutilisé et une partie de son crâne ainsi qu'une large partie de ses viscères de l'arrière.
Ça se tente, aide-moi où tu es.
Je te flanque.
Oh go go go.
Fin du combat. Vous gagnez 400 XP.
Kyoko.
Bravo Hannah, tu l'as bien explosé. On a survécu grâce à la tactique.
On va arrêter ici. Je pense que c'était le gardien de la salle finale. On doit être nickel pour le boss fight s'il y en a.
L'équipe se retrouve donc à camper dehors en attendant le prédictible zombie. Ironiquement, il n'y en a pas. Rock surprend Serre fatigué la nuit. 3 rations plus. L'équipe revient dans le donjon et ils arrivent devant une porte fermée avec un verrou. Après 1 minute, Vlad s'arrête.
J'ai fait un vanat et ça s'ouvre pas. C'est un beau verrou. Mais bon, j'ai ma hachette et cette porte est en bois.
L'équipe passe un long couloir qui serpente et passe par des cadavres décharnés cloués sur le mur gauche. Candir délaisse au sol en priant. Puis ils arrivent devant une porte.
Bloqué et blindé.
Ouverture.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.